Plus tarder, je vais demander à Mireille Bonnier-Bal de venir débuter avec le témoignage de sa carrière personnelle et tout ce que ça peut être dans ce parcours qu'elle dit atypique, et moi je crois qu'il est au contraire un parcours exemplaire, tout ce qu'on peut attendre pour chacun de nous d'une sorte de témoignage de comment en psychiatrie on peut avancer dans la difficulté. Mireille, à toi.
Je vous remercie de m'avoir invité et de m'avoir rappelé que je suis à l'âge où on peut faire sa biographie. Et je vais essayer, dans un premier temps, de ne pas trop parler pour vous apporter des éléments qui vous permettent de comprendre à quel moment a commencé la sexologie en France et dans quel contexte, parce que le contexte est quelque chose d'important. Je fais partie de la génération baby-boom, celle qui, grâce aujourd'hui, nous pouvons payer nos retraites, et grâce à quoi également, ayant néanmoins dépassé les 65 ans, je suis obligée de travailler plus pour gagner plus, mais peu importe, puisque c'est quelque chose que je fais sans y être obligée. Alors, ceux de ma génération, c'est ceux qui ont connu mai 68, ceux qui ont connu la révolution des rôles et de la femme, c'est ceux qui ont connu la contraception, l'avortement, également la télévision, également l'ordinateur, et aujourd'hui l'iPhone et l'iPad. Alors, quel est le contexte dans lequel moi, qui ai passé donc mon bac en 62, dans les années 70, suis arrivée au moment où il y avait de la sexologie qui était en train de se former, mais qui n'était pas encore là, et au moment où je suis rentrée en psychiatrie, comme on rentre en religion, parce que détestant les problèmes psychologiques et psychiatriques, voulant faire médecine interne, je me suis fait violence à faire un stage en psychiatrie, et n'ai plus jamais pu en sortir parce que c'était une dimension de la médecine qui, à l'époque, s'intéressait à l'être humain et au côté humaniste, à l'histoire des individus, à ce qui les avait amenés là où ils étaient, et qu'il n'était pas possible pour moi de retourner en médecine là où on s'interrogeait sur les organes et leur fonctionnement. Et vous verrez que l'histoire est un éternel recommencement, parce que je crois bien qu'on est revenu à un moment où dans l'histoire de la médecine, on ne s'intéresse plus qu'aux organes et à leur fonctionnement.
Changer la vie. Le souhait de Rimbaud a été mis en pratique dès l'occupation de la Sorbonne par les étudiants. Pas un lieu sans débat, pas de sujet tabou. Le vertige du tout est possible.
Pendant qu'on était à la Sorbonne, on s'apercevait qu'il n'y avait rien sur les femmes. Alors on a commencé à placarder des slogans. Ensuite, on est monté au premier étage où on réservait les salles. Et là, on a dit, ben, y a un petit problème, on ne parle pas des femmes. Ah, quand on a vu peu à peu l'amphi se remplir tellement qu'on refusait les gens, on était en bas, c'était un amphi comme ça. J'ai ressenti une des plus belles émotions de ma vie. C'était enfin les barrières brisées, la parole qui circulait, on se souriait.
Et on ne cassait pas les voitures.
Bonjour, bon après-midi. Ces coupures de journaux que vous venez de voir nous l'ont montré, l'actualité quotidienne nous le prouve aussi, l'opinion publique en France est encore très divisée sur ce problème qu'est l'éducation sexuelle. Prenons-en pour preuve supplémentaire, si vous le voulez bien, cette affaire qui a eu lieu à Belfort, au lycée de Belfort, il y a un peu plus d'un mois, où un professeur a eu maille à partir parce qu'avec ses élèves, des élèves de terminale, des élèves de philo, elle avait discuté d'un tract que certains ont jugé scabreux et immoral.
Celle du tract Carpentier, c'est-à-dire le printemps 71. C'est à cette date, en effet, qu'un médecin de Corbeil, Jean Carpentier, diffuse auprès des lycéens surtout un tract célèbre, Apprenons à faire l'amour. Ce qui a entraîné d'ailleurs pour lui une série d'ennuis. Il a été accusé et condamné pour outrage aux bonnes mœurs. Il a été exclu pendant un an de l'ordre des médecins. Tout ceci uniquement pour avoir écrit et diffusé ce papier.
Il y a 5 ans, que disait exactement ce tract scandaleux ?
Bien, je crois que le plus simple, c'est de le lire. Oui. Il s'appelait donc « Apprenons à faire l'amour ». C'est le chemin du bonheur. C'est la plus merveilleuse façon de se parler et de se connaître. Premièrement, l'homme possède un organe fait de tissu érectile, la verge. Deuxièmement, la femme possède un organe beaucoup plus petit, mais équivalent, situé au-dessus de l'orifice extérieur du vagin, le clitoris. Ces deux organes sont de taille variable, suivant les individus, mais cela n'a aucune importance. Il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. L'important est de savoir s'en servir.
Il y a quelques mois, le rapport Simon, surnommé le rapport Kinsey des Français, obtenait un succès de controverse, c'est le moins qu'on puisse dire, en même temps qu'un succès de librairie. Quelques légendes, quelques idées reçues volaient en éclats devant les statistiques.
Les Français n'abordent que très rarement les problèmes sexuels. Ils limitent au strict minimum les conversations sur un sujet que pour la plupart, ils considèrent encore comme tabou. Les Français ayant tant de mal à parler entre eux, il ne faut pas s'étonner s'ils éprouvent quelques réticences à se confier à des tiers, même si ces tiers sont préparés à les écouter, à les aider et à les conseiller. Cela explique pourquoi les 350 centres du planning familial ne reçoivent qu'une petite minorité de consultants. Cette crainte du candidaton se transforme en sentiment de culpabilité lorsqu'on aborde la contraception. 20 siècles de civilisation chrétienne ont solidement ancré le mythe de la faute. La finalité de l'amour est la procréation. Or, la contraception permet une nouvelle finalité, le plaisir. Dans ce conflit entre les conceptions traditionnelles et les conceptions nouvelles, c'est encore la tradition qui l'emporte. 95% des femmes connaissent la pilule, 45% croient à son efficacité, 8% seulement la prennent. Les Français refusent en majorité de reconnaître la sexualité. Pour 80% d'entre eux, les rapports sexuels se font dans l'obscurité. Et le moins que l'on puisse dire est que l'imagination n'est pas souvent au pouvoir. Refusant la sexualité, ils ignorent tout ce qui s'y rapporte. Les sex shops n'ont pas une grande clientèle, les films spécialisés n'attirent pas les foules. Quant à la littérature, mise à part quelques publications érotico-commerciales douteuses, elle fait l'objet de l'attention particulière de la censure officielle. Ainsi, Régine Deforge a-t-elle été privée de ses droits civiques en même temps qu'elle voyait interdire 80% des livres qu'elle édite. La réputation des Français, grands amoureux et dispensateurs de jouissances diverses, est surfaite. Encore faut-il préciser que cette réputation se référait à une certaine couche privilégiée de la société qui avait les moyens de consacrer plus de temps à l'amour qu'au travail. Aujourd'hui, malgré le complot du silence entourant la sexualité, commencent à apparaître des...
De nouvelles formes de sexualité, effectivement, dont vous voyez le contexte dans lequel les choses se passent, c'est pas si loin de vous, même si vous n'étiez à l'époque que de petits embryons. Mais il faut savoir d'où vous venez. Et ce qui vous paraît évident aujourd'hui ne l'était pas ailleurs. Et ça vous permet de comprendre déjà une des premières choses qui a fait s'ouvrir la sexologie, c'est quelque chose qui était de l'ordre de la pédagogie de la sexualité, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on apprenne tout bêtement ce qu'était faire l'amour, dédramatiser, déculpabiliser et permettre de corriger les concepts erronés. Vous connaissez tout ça, ceux qui font des thérapies cognitivo-comportementales. Ça faisait partie de choses qui étaient les sexothérapies, et on va continuer à en parler.
Au Sénat, Mme Veil, le ministre de la Santé, a présenté, pour le texte sur l'interruption volontaire de la grossesse déjà voté par les députés, a présenté ce texte. Le rapporteur du projet, M. Mézard, y est favorable. Il souhaite le remboursement des interventions par la Sécurité sociale. Vous avez pu l'entendre, ainsi que Mme Veil, au cours de notre édition de 13h.
Refuser le texte sur l'avortement ne résoudra rien, c'est l'idée qui s'est dégagée du rapport présenté par le docteur Jean Mézard. D'ailleurs, le projet de loi, a-t-il dit, n'autorise pas l'avortement, il le contrôle. Ministre de la Santé Simone Veil a dit « L'important est que la loi soit applicable et que l'avortement soit un ultime recours. » Madame Veil est sûre que si la loi est votée, cela n'entraînera pas de désordre dans les mœurs. Son intervention a été très applaudie. Puis, partisans et adversaires ont pris la parole, parmi eux des médecins comme le professeur Jacques Henrier, adversaire résolu de l'avortement, qui dit « La femme est libre de disposer de son corps, mais pas de l'embryon qu'elle porte. » maillon de la grande chaîne de l'évolution. André Aubry, communiste, a demandé le remboursement par la Sécurité sociale. Pierre Carrousse, UDR, a annoncé que son groupe ne donnerait aucune consigne de vote. Pierre Marcilassi, non inscrit, il n'est de bonnes lois que celles qui ont pitié des hommes. Demain, fin du débat avec vote en fin de journée.
Vous voyez qu'on vote toujours et que c'est toujours l'objet de veilles de révolution. Et donc, les femmes ont gagné leur bataille sociale. Elles ont pu contrôler leur fécondité. Elles ont pu prendre la pilule. Et elles ont pu essayer de ne plus penser à chaque rapport sexuel. Mon Dieu, est-ce que je ne vais pas tomber enceinte ? Et bêtement jouir, chose que vous, mesdemoiselles et mesdames, vous ne vous posez plus du tout comme question. C'était une époque, toujours pas si loin, où la majorité était à 21 ans. Alors on assiste à un changement des attitudes sexuelles à partir de tout ce que mai 68 a mis en route au niveau, et tous ces apports sociaux qui ont permis de se poser d'autres questions sur qu'est-ce qu'on faisait en étant deux et en décidant de faire l'amour.
J'étais avec ma femme à la plage, c'est une plage publique où tous mes compatriotes vont à la plage, ils viennent exprès un mois en vacances pour descendre à la plage, puis il n'y a plus moyen de se baigner, tout le monde est à poil. Alors, il faudrait savoir ce qu'on va faire. Et nous, moi-même, j'ai résolu le problème, je suis retourné au village, j'ai acheté 4 kilos de peinture, de la bonne, de la peinture à l'huile, verte, pour ne pas dénoter avec la nature, et j'en ai peint 3. 2 hommes et une femme.
C'est les premières surprises parties, mais c'est également une révolution, puisque les jeunes, n'oubliez pas que dans l'éducation, les lycées ne sont pas mixtes et que rien n'est mixte dans l'école primaire. On peut se rencontrer, danser ensemble, savoir qu'on a une contraception et savoir qu'on peut se toucher. Et à l'époque, simplement flirter, c'était quelque chose d'extrêmement jouissif. On n'était pas obligé, dès les premières surprises parties, de les boum, excusez-moi, de montrer qu'on savait baiser. Et ça, c'était le contexte. Et où en est la psychiatrie à cette époque-là ? Je vous ai passé l'épisode sur la psychopharmacologie, parce que vous la connaissez bien et qu'on n'avait pas le temps. Mais c'était l'époque où on découvrait les neuroleptiques. Mais c'était l'époque également où on parlait psychanalyse, et où on parlait également anti-psychiatrie. Alors, vous avez là Ronald Lang, qui était un des personnages, avec David Cooper, de l'anti-psychiatrie. Et vous avez vu que tout se passait quand même dans une atmosphère très sociologique. À l'époque, on apprenait qu'on était psychiatre, qu'il n'y avait pas de malades et pas de psychiatres, et on allait manger à l'internat avec les malades mentaux, et on les aidait à faire leur lit. Parce qu'il n'y avait pas de rôle non plus, il fallait lutter contre les rôles avec un dominant et un dominé. On laissait la libre expression aux malades mentaux de pouvoir maculer avec leur excrément sur les murs de l'internat parce que c'était de la créativité. Mais donc, ceci pour vous permettre de comprendre tout ce qui était en somme révolutionnaire, c'est que ce n'était pas la vie, ce n'était pas l'individu qu'il fallait guérir, mais c'était la vie, c'était ce qu'a repris comme slogan également mai 68. Du côté des urgences psychiatriques et du côté de la symptomatologie de l'époque, c'est vrai qu'il y avait un foisonnement d'hystérique. Vous avez oublié ce que c'est l'hystérie aujourd'hui, puisque vous avez oublié ce qu'était la névrose et qu'elle ne fait plus partie du DSM-4. Mais nous, on connaissait bien ça, la névrose, et on était submergé de cette symptomatologie qui donnait à voir, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, très peu à voir, envahis que nous sommes, de ceux qui ne font que réitérer des conduites addictives. La psychanalyse, c'est une méthode, ce n'est pas une thérapie. La psychanalyse, c'est une méthode qui donne à penser à partir de la clinique. N'oubliez pas cette phrase, parce qu'elle n'est pas de moi, donc je peux donc la prôner. Elle est de la planche. Pour ceux qui connaissent le vocabulaire de la psychanalyse, il y a la planche et Pontalis, c'est donc la planche, qui dit cela, et ça me paraît extrêmement pertinent. Et pourquoi je parle de ces deux données de l'apport de la psychanalyse ? C'est parce que quelque part, mine de rien, ils ont nourri aussi ce qu'est devenu la sexologie. C'est-à-dire que vous connaissez, bien sûr, le processus d'étayage et le processus d'après-coup. Vous savez que Freud nous a parlé, lui, de l'étayage, pour dire que c'est à partir du sexuel que le sexuel se bâtit à partir du vital. C'est-à-dire l'enfant qui prend plaisir à téter, l'enfant qui prend plaisir à pisser, l'enfant qui prend plaisir à excréter, c'est sur ces zones organiques, sur le vital, que va s'asseoir le plaisir, et c'est ça l'étayage. Et également l'après-coup. L'après-coup, c'est quelque chose qui est très important, je crois, pour tout ce qui est, à l'heure actuelle, qui vient de ce bon sang, mais c'est bien sûr, qui fait qu'à un certain moment, ce qui s'est inscrit en soi et qui n'était pas conscient vient faire irruption et dans la compréhension de quelque chose. Et dans la sexualité, il y a quelque chose qui est peut-être important à retenir pour ce qui fait partie de l'agressologie des agresseurs sexuels, par exemple, c'est le processus que va décrire, par exemple, attendez, je retourne en arrière parce que c'était avant, c'était ici, c'est-à-dire que avec l'adulte qui, quelque part, fait une dyade, et le premier adulte, la plupart du temps, c'est la mère, et que selon l'inconscient qu'a la mère quand elle touche l'enfant, on est dans un processus dans lequel on est dans une dyade avec un actif et un passif, et que l'inconscient maternel va écrire des choses sur le corps de l'enfant, qu'elle caresse, qu'elle masse ou qu'elle ne touche pas, justement, et que selon, effectivement, la jouissance ou l'inconscient ou l'excitation ou tout ce qui est dans cet inconscient maternel, c'est quelque chose qui va s'inscrire et se traduire chez l'enfant sans qu'il le sache et qu'il va pouvoir ressortir plus tard dans l'après-coup. Et je crois que cette notion-là est extrêmement importante pour notre réflexion, en particulier pour lorsqu'il s'agit de victimologie. Par contre, en dehors de la psychanalyse, effectivement, on voit apparaître tout ce qui est des pensées opératoires. En sexologie, nous avons beaucoup de personnes qui viennent avec une pensée opératoire. Ils n'ont pour but que de demander qu'on les répare de quelque chose qui ne fonctionne pas, de ce qui ne marche pas. Ma queue ne marche pas, ma jouissance ne marche pas, je ne bande pas, j'éjacule pas, il faut que vous me répariez. Docteur, démerdez-vous avec ça. Et la pensée, là-dedans, vous voyez que quelque part... Elle est absente de quelque chose qui la relie au sens. À l'époque, quand on faisait de la psychosomatique et psychanalytique, on parlait de phénomène de reduplication projective, qui est quelque chose d'intéressant en cela que dans la reduplication projective, le patient ne perçoit pas l'autre comme autre, mais comme quelque chose qui est lui-même. C'est-à-dire qu'il pense, par exemple, on va prendre un exemple banal, qui est le patient qui a une dysfonction sexuelle, mettons érectile, peu importe, eh bien, il pense que l'autre veut son érection. Et c'est pour ça qu'il vient consulter, pour ne pas être ridicule vis-à-vis de l'autre qui veut son érection. En réalité, l'autre, on ne sait pas ce qu'il veut. On ne peut demander à l'autre ce qu'il veut que parce qu'il est autre. Donc, vous voyez tous ces phénomènes-là qui sont dans une marmite, en somme, d'où va jaillir la sexologie qui est en somme que le résultat d'un questionnement. Alors, dans ceux qui ont œuvré aussi à apporter des données à la sexologie, eh bien, il y a ceux qui ont commencé à étudier les comportements. Quand je suis arrivée en médecine, on n'étudiait pas en anatomie les organes sexuels. Ils n'étaient pas dans les livres et les programmes d'anatomie. Comme j'ai entendu tout à l'heure, que n'était pas dans votre programme également ce qui était de l'ordre de la sexualité. Donc, il y a ceux qui ont commencé à étudier les comportements. Vous savez que Kinsey a été quelqu'un qui, le premier, a montré qu'il y avait une différence entre ce qu'on croyait, ce qu'on craignait et ce qui était. Et il a ouvert une porte importante. D'autres qui ont ouvert une porte, c'est Master et Johnson. Master, un gynécologue. Johnson, une psychologue avec qui il va se marier. Et ce couple-là va commencer à interroger en couple des patients qui viennent se plaindre de leur sexualité et petit à petit mettre en place des processus qu'on va appeler des sexothérapies. Et ça va être eux qui vont non seulement l'étudier in vivo, parce qu'en laboratoire, ils vont regarder comment se passe un orgasme avec des capteurs, par exemple, qui vont enregistrer la pression artérielle, qui vont enregistrer l'électrocardiogramme, des espèces de godemichés avec des petites caméras qu'on va mettre dans le vagin des femmes. Vous imaginez à l'époque ce qui en est, mais qui permettait pour la première fois d'étudier la physiologie sexuelle et de décrire en somme les phases en plateau, excitation, réponse que vous avez, à partir desquelles s'est bâti le DSM-4. Parce que si vous regardez comment s'est bâti le DSM-4, il s'est bâti à partir des phases de excitation, plateau, réponse sexuelle et détumescence qu'ont bâti Master et Johnson à l'époque. Ce sont les premiers qui ont écrit et qui ont sorti des résultats sur des thérapies qui étaient comportementalistes, dans lesquelles il y avait à la fois cette information sur la sexualité, demander à l'autre ce qu'il pensait et comment il concevait la sexualité pour pouvoir le corriger, lui apporter l'information adaptée, et après lui réapprendre et le réadapter progressivement par des thérapies qui étaient de l'ordre de l'exposition graduée in vivo, si vous voulez, quelque chose que de cet ordre-là, où on donnait des consignes de comportement progressif au couple qu'il devait rapporter régulièrement, dans lequel il devait discuter de ce qui avait fonctionné ou pas. Et moi. Là, pour ceux qui ne me reconnaîtraient pas, c'est bien moi. Je regrette de n'être plus comme ça. Premier film à la télévision française, Le Son. Du soir.
Depuis que le monde est monde, ou plus précisément depuis que l'homme existe sur la Terre, nous sommes le siège de pulsions sexuelles puissantes et souvent irrationnelles. Dans certaines civilisations, le fait est reconnu, il est incorporé dans la représentation que l'on a de l'homme, témoin ces poteries péruviennes qui datent de l'ère précolombienne. Dans d'autres civilisations, comme la nôtre, un véritable tabou plonge la part animale, la part naturelle de l'homme, dans le mystère et l'interdit, ce qui contribue à créer des troubles graves de la personnalité par ignorance, refoulement, sentiment de culpabilité, troubles qui menacent souvent la vie du couple. Ces troubles sexuels sont de véritables maladies, des maladies complexes où le corps, l'esprit et l'entourage du patient se trouvent engagés. En Suisse, la sexologie est une science enseignée à la faculté de médecine et à l'hôpital cantonal de Genève, existe une unité de soins composée de médecins et de psychologues que dirige le professeur Willy Pazzi.
La sexualité est une dimension fondamentale de la vie. Elle en marque l'origine. Elle est inscrite autant dans notre corps que dans notre esprit. Au moment de la puberté, se précisent des modifications hormonales et psychologiques importantes, même si la psychanalyse nous a révélé l'existence de pulsions sexuelles chez l'enfant. Chez l'adulte qui consulte pour un problème sexuel, nous devons envisager plusieurs causes possibles. Dans 15-20% des cas, il s'agit de causes organiques, comme par exemple le diabète, certaines lésions vasculaires, des maladies des organes génitaux. Mais la majorité des causes sont d'origine psychologique. Il peut s'agir de problèmes individuels, tels qu'un sentiment d'insécurité, une dépression, la peur de l'autre sexe, etc. Il ne faut pas non plus méconnaître les conflits conjugaux et la pathologie de la communication dans le couple. Enfin, la sexualité est aussi un phénomène social et politique.
Donc c'est le moment où je passe ma thèse et après être allée à Genève et à Paris suivre les premiers cours de sexologie qui s'organisaient en France, j'ouvre la première consultation donc en CHU qui soit à l'hôpital. En même temps qu'il y a la sexologie, bien sûr, comme c'était mis en psychiatrie, l'anti-psychiatrie se bâtit l'anti-sexologie. L'anti-sexologie, c'est tous ceux qui, issus de la psychanalyse, disent « mais ce n'est pas le sexe dont il est question, c'est ce qu'il vient de dire, c'est comment il se bâtit. » Et donc, on ne pose pas de questions sur ce qui est de la sexualité manifeste et on va plus essayer de faire mettre en mots des choses. Mais ça, c'est quelque chose qui est accessible, vous le comprenez bien, avec des personnes qui n'ont pas un problème opératoire, qui viennent consulter peut-être en couple et par lesquelles on peut retourner dans la sexualité par le biais de thérapie de la communication. Toujours à ce moment-là, effectivement, il faut savoir qu'on va créer en France les premiers diplômes universitaires de sexologie avec le soutien de l'école de Genève qui nous a permis de les instaurer. Le premier, c'est mis à Marseille, et puis il a été suivi par Lyon, et puis Bordeaux, et puis Paris, et puis Toulouse, puis le Grand Ouest. À l'heure actuelle, pratiquement dans toute la France, il y a eu des diplômes universitaires de sexologie qui ont été créés. Il faut savoir que j'ai créé également la première revue donc, de sexologie française bilingue en sexologie. Et il faut savoir que ce n'est qu'en 1995 que le Conseil de l'Ordre des médecins a reconnu la sexologie. Jusque-là, l'Ordre des médecins écrivait à chaque médecin qui mettait sur sa plaque qu'il avait un diplôme de sexologie, créé depuis 1975, il leur écrivait « Vous avez à choisir, ou vous êtes sexologue, ou vous êtes médecin, mais vous ne mettez pas les deux sur votre plaque. » Il est clair qu'il a fallu longtemps batailler avec l'ordre, faire des réunions jusqu'à ce que l'ordre accepte effectivement qu'un diplôme soit reconnu. Reconnu, ça veut dire qu'on avait le droit de l'inscrire sur la plaque. Dans la mesure où on a mis en place un diplôme national avec réorganisation nationale de l'ensemble des questions dans chaque faculté et un concours, enfin un concours, un examen national. Et l'ordre passe son temps entre-temps, effectivement, à me demander des comptes, puisque faisant quelque chose qui est novateur, effectivement, on me demande de passer à la télévision. L'assistance publique et tous ceux pour qui ça peut être quelque chose d'intéressant de parler de ceux qui montent à Paris faire le spectacle, puisqu'entre-temps, je passe chez De Chavannes, chez Igor Barrère, chez peu importe, je m'en souviens même plus. J'ouvre un mini-TED de sexologie, mais l'ordre m'accuse de faire de la publicité. Et effectivement, je suis condamnée régulièrement, trois fois, à des refus d'exercice. Et avec, donc, au niveau du Conseil de l'Ordre, quand on me voit arriver, vous savez, la personne du Conseil de l'Ordre qui sert d'accusateur, qui dit... Encore cette femme qui fait parler d'elle. Je voulais simplement voir.
Ça se passait hier après-midi à l'Assemblée nationale, mercredi, jour des questions orales, comme c'est l'habitude. Un député de l'opposition, M. Coustet, s'indigne de la programmation par Antenne 2 de l'émission Psycho, que vous avez peut-être regardée, et qui consiste, dans les grandes lignes, à permettre d'aborder un certain nombre de sujets tabous, comme la sexualité. C'était d'ailleurs le cas du couple vedette de la première émission, le but étant d'aider peut-être d'autres couples dans la même situation qu'eux. M. Coustet, lui, visiblement, n'a pas apprécié. Il l'a dit au secrétaire d'État à la communication, M. Filliou. Voilà pour les explications qui vont vous permettre d'apprécier cette passe d'armes verbale.
Je voudrais savoir si véritablement cette émission nouvelle, car c'est une émission nouvelle, qui sera, je suis sûr, suivie d'autres émissions si le gouvernement n'agit pas, sera, je suis sûr, de nature à lever sur tous les bancs, mes chers collègues, des protestations, car il s'agit de savoir si nous voulons une télévision scandaleuse, une télévision thérapeutique de la sexualité maladive, et en fin de compte, si nous voulons une télévision qui soit vraiment formatrice, informatrice, éducatrice et de qualité.
Monsieur le député, votre soudaine pudibonderie m'intriguerait si je pensais un instant que vous regardiez la télévision. Mais j'ai l'intime conviction que, posant cette question, vous ne vous intéressez ni au contenu ni à l'emballage, mais que vous vous livrez à une mauvaise attaque politique partisane sous le prétexte des programmes de télévision. Que vous n'aimiez pas cette émission, je vous confesse, Monsieur Coustet, que vous en avez le droit. Il lui suffit que vous vous couchiez avant 22h10 pour ne pas subir ce que vous trouvez scandaleux. Il eût suffit que vous vous portiez sur l'une des deux autres chaînes.
Ce même soir, il y avait à 20h35 les mercredis de l'information sur les homosexuels. Ce même soir, monsieur le ministre, où était le choix?
Vous voyez toutes les difficultés qu'il pouvait y avoir dans intégrer des choses nouvelles par rapport à la sexualité et à montrer ce qui se passait. Mais grâce à Dieu pour eux, arrive le MST et c'est la fin de la libération sexuelle et c'est le début de la sexualité contrôlée médicalement. Et on voit apparaître des médecins, je n'ai pas eu le temps de vous sortir tout parce que sinon on dépassait le temps, qui ont une vision extrêmement moraliste et qui se servent des MST pour expliquer effectivement que même les cancers sont, comment dirais-je, transmis sexuellement. Alors même si ce n'est pas tout à fait faux à l'heure actuelle avec les papillomavirus que l'on a pu voir, ils n'atteignent pas 20%, ce qui est donné comme chiffre par Mathé, qui est quand même une des figures de la cancérologie à cette époque-là. Et puis donc, apparaît un autre aspect. 1998, sort le Viagra, c'est la fin du Viagra marocain, c'est-à-dire c'est la fin de la yohimbine et de toutes ces choses qu'on prend comme effet placebo, bien que la yohimbine ait un petit peu quelque effet, mais enfin, pas autant qu'on voudrait, et qui peuvent faire penser qu'on va se servir d'un médicament pour ceux qui en ont besoin, pour les aider à découvrir une sexualité que leur anxiété ne leur permet pas d'ouvrir, et en s'appuyant sur un médicament, en somme, antiphobogène, quoi, hein, antiphobique plutôt, d'avancer un petit peu. Et je dois dire que nous sommes tous étonnés, nous les psys, de voir effectivement qu'en avalant une pilule bleue, eh bien, ce qu'on pensait seulement psychogène peut fonctionner différemment au niveau de l'organe. Alors il y a beaucoup à dire là-dessus, ce sera un gros débat que je vous propose pour d'autres congrès, mais ce sujet est très intéressant. Il faut savoir que les laboratoires pharmaceutiques ne font leur essai clinique que sur des populations sélectionnées, et toutes les IPDE5 sont faites sur des populations de couples stables, qui s'entendent bien, qui n'ont pas de dépression, et donc pour lesquels il y a déjà un effet placebo de 40% dont personne ne parle, et pour lesquels on arrive à 65% avec un médicament de cet ordre-là qui a indéniablement un effet périphérique qui, lorsque on sait bien l'utiliser avec un savoir-faire, peut permettre, bien sûr, d'avoir une érection.
Les appelez-vous, ces objets ?
Bon, on parle souvent de sex toys, je ne sais pas pourquoi on est obligé de passer par l'anglais.
Mais ça, c'est un mot anglais, oui, alors donc ça, c'est pas très intéressant. C'est que presque de manière pudique, de... il n'y a pas un mot en français, on dit
les mots français sont très vilains.
Jouer pour adultes, c'est quand même bien triste, non ?
On a maintenant à communiquer.
Alors, on a une téléspectatrice qui réagit au téléphone. Je ne sais pas comment elle réagit, si elle est choquée, amusée, intéressée. Bonjour. Qui est là avec nous ?
Bonjour,
madame. Vous êtes ?
Je suis Marité.
Pardon ?
Je suis Marie-Thérèse.
Marie-Thérèse. Bonjour, voilà. Marie-Thérèse.
Bonjour.
Vous appelez d'où, Marie-Thérèse ?
J'appelle du Val d'Oise.
Du Val d'Oise. Alors, je vous écoute. Quelle est votre réaction à ce que vous venez d'entendre ?
Eh bien, écoutez, pour moi, c'est une réaction très positive.
Oui.
C'est un objet qui m'a été offert par un compagnon.
Oui.
Et qui m'a été offert le jour de notre rupture.
Ah.
Oui, parce qu'il connaissait mon appétit sexuel. Et disons que je reprenais mes études, donc j'avais besoin d'être disponible et je lui demandais de faire un petit break. Et comme il ne pouvait pas m'attendre, donc il m'a offert cet objet. Et je dois dire que, je ne sais pas si les autres femmes ressentent la même chose, mais pour moi avec cet objet, c'est le plaisir assuré à chaque fois. Qu'avec un partenaire, ce n'est pas toujours le cas.
Bon, et l'amour dans tout ça ?
Et l'amour dans tout cela, l'amour est retrouvé.
Vous avez retrouvé.
Je ne l'utilise pas encore justement avec mon nouveau compagnon. Il ne sait même pas son existence encore.
De l'objet, vous voulez dire ?
De l'objet, bien sûr.
Mais vous avez retrouvé un compagnon.
J'ai nommé Georges justement.
Pardon ?
Je l'ai appelé Georges. Et je l'ai montré à plusieurs de mes amis.
Oui.
Et je dois dire qu'elles ont fait l'acquisition de ce Georges, justement.
Elles ont été conquises. Elles ont été conquises par Georges.
Voilà. Et
il a un aspect...
Alors c'est cet aspect qui est formidable.
Ah bon.
Parce que, disons qu'il y a la pénétration, mais en même temps avec la pénétration, il y a l'excitation du clitoris.
Ah oui.
Parce qu'il y a comme une petite languette qui arrive sur le dessus. Et ça, c'est une chose qu'on peut difficilement avoir avec un partenaire.
D'accord. Bon, on va peut-être pas entrer dans tous les détails techniques, mais on voit à quel point Georges est séduisant et vous a conquise. Merci de votre témoignage. Donc, vous êtes archi pour et vous pensez que ça...
Tout à fait.
Voilà. Donc, on dit...
Alors, je ne sais pas si vous avez regardé toutes les mimipes de la Spipicrine, parce que ça montrait en même temps tout son langage donc de contre-attitude. J'avais été sollicitée pour participer à cette émission à laquelle je n'étais pas allée, mais on m'avait bien, parce que je n'avais pas le temps, et on m'avait averti, si vous venez, n'utilisez surtout pas le mot de Godemiché. Hein, c'était un mot qu'on ne devait pas entendre à la télévision. Et donc là, elle s'est fait déborder par le témoignage, et vous avez vu tous les mouvements, elle se touche les cheveux, elle fait des mimiques, etc., qui montrent bien effectivement là où elle en est. Et c'est le moment toujours dans l'évolution de la sexualité par rapport aux médias où effectivement on commence à entendre sur les radios les adolescents qui viennent raconter tous leurs troubles et une sexualité envahissante alors mais une sexualité fonctionnelle.
C'est le premier pays au monde à prendre une telle décision qualifiée d'historique par les associations. Enfin notre...
19 ans, jour pour jour, après avoir sorti l'homosexualité de la liste des maladies mentales, la France fait de même avec la transsexualité. Les transsexuels seraient 60 000 d'après leurs associations en France. Pour elles, cette annonce symbolique répond à une revendication de longue date.
La question de la psychiatrisation, le fait d'être considéré comme un malade mental, c'est surtout la personne elle-même qui le ressent. Les personnes savent très bien qu'elles ne sont pas des malades mentales. Alors on dit que ça a une portée symbolique, effectivement je crois que ça ne va pas au-delà.
Administrativement, pour changer officiellement d'identité, il faut avant avoir changé de sexe, être passé par une opération.
La moitié seulement des trans souhaitent seulement changer de sexe. Il faut donc que pour la moitié qui ne souhaite pas changer de sexe, cette possibilité d'opération ne soit qu'une possibilité et pas une obligation.
Si les textes bougent, les mentalités doivent encore évoluer. D'après ACT UP, deux transsexuels seraient victimes d'agressions physiques chaque semaine à Paris.
Ça aussi, je vous le propose pour un autre congrès, c'est une question très importante.
Ségolène Royal, merci d'être avec nous dans ce RTL Midi pour évoquer
Ce bras de fer que vous avez engagé avec l'Éducation nationale à propos du chèque contraception, c'est un projet que vous aviez lancé il y a déjà quelques semaines à la présidence de Poitou-Charentes. Vous le maintenez ou pas ?
Bien sûr, d'abord parce que ça fait 3 ans que nous y travaillons. Ensuite, parce que je pense que le rôle des infirmières scolaires, qui d'ailleurs soutiennent à fond ce projet avec lequel nous avons travaillé, le rôle des infirmières scolaires, c'est de répondre à la détresse des élèves. Et on sait qu'en France, il y a 6 à 7 000 grossesses précoces chez les jeunes filles de moins de 17 ans, dont 60% se terminent par un avortement. Et ça, je crois qu'il faut absolument leur venir en aide en diffusant de la contraception à des jeunes filles qui souvent en plus sont en grande difficulté financière ou n'arrivent pas à parler à leurs parents ou n'ont pas accès à l'information. Et donc, avec ce carnet contraception qui est donné aux infirmières scolaires, bien sûr, il n'y a pas une distribution comme ça, comme je l'entends dire dans la cour de récréation.
Mais ce n'est pas directement de les distribuer aux élèves, ça passe par les infirmières.
Voilà, voilà. Donc.
L'homoparentalité est en effet inscrite dans notre projet. C'est une famille comme une autre. Et d'ailleurs, je suis la première ministre de la famille à avoir reconnu comme interlocuteur légal l'association des parents gays et lesbiens. Pourquoi je l'ai fait ? Parce qu'il y a en effet des couples qui ont eu des enfants dans une vie hétérosexuelle, qui ont ensuite une vie homosexuelle, et qu'ils ont le droit, parce que ce sont de bons parents, aussi bons que les autres, ils ont le droit de continuer à assumer leur autorité parentale, au nom du même principe. On peut changer de conjoint, on ne divorce pas.
Alors, il y a des situations de fait. Est-ce que vous légaliserez le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels ? Oui. Est-ce que vous en prenez l'engagement ?
Oui.
Et pendant ce temps, donc vous voyez que le contexte change. Que font les psychiatres ? Eh bien, les psychiatres sont bien partagés. Il y a ceux qui viennent de la psychanalyse, qui considèrent toujours que la sexologie ne fait pas partie de leur registre. Il y a ceux qui viennent du DSM-4 qui ne connaissent rien à la névrose puisqu'on ne leur a pas appris. Il y a ceux qui viennent des neurosciences qui sont dans leur, on va dire, dans leur consultation à l'affût d'indicateurs de prescription pharmacologique. Et puis ceux qui ne savent pas faire avec les patients déroutants qui viennent quand même leur poser des questions, qui utilisent les réseaux pour pouvoir travailler. Pendant ce temps, il y a une médicalisation de la sexualité qui avance. C'est-à-dire que du côté médical, il y a une bataille d'essais cliniques qui, elle, utilise le marché, parce que c'est un marché qui devient prometteur. Et donc, on voit sortir des IPDE5 au point que vous en avez à l'heure en permanence comme spam sur vos ordinateurs, qu'il y en a comme spam sur les publicité télévisée à la télévision, donc de la télévision, bien sûr. Vous avez d'autres médicaments qui sortent, la d'apoxétine pour l'éjaculation précoce. Vous avez eu des batailles que vous avez vues donc, avec Léonore Tiffer, qui est une féministe américaine, qui dit qu'il y a des créations par l'industrie pharmaceutique de difficultés, de maladies sexuelles. Et puis, vous avez donc le concept de désir hypoactif sur lequel, à l'heure actuelle, on essaye de bâtir un marché et sur lequel il y a eu des médicaments qui ont échoué, comme la flibanstérine, le PT-152. Vous savez, c'était ce médicament qu'on pouvait en spray mettre, qui permettait qu'on se jette sur vous, mais il a déclenché également des hypertensions artérielles, donc on l'a arrêté. Et puis on s'est mis à prescrire de la testostérone chez les femmes, pour qu'elles aient plus de désir, puisque la testostérone est l'hormone du désir. Et alors, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un ratage de la psychiatrie qui fait qu'en somme, il y a une récupération, non pas par ceux qui parlent de la sexualité, de partage, de relations, de mise en place, de psychogénèse des zones érogènes, de la compréhension des phénomènes psychologiques en jeu. Est-ce que ça, on n'en parle plus et que peut arriver et prendre la place tout ce qui est de l'ordre de la médecine? Est-ce que la psychiatrie doit délaisser l'approche globale de l'être? Et est-ce qu'il faut n'être que dans une société dans laquelle la médecine ne doit apporter que des preuves de ce qu'elle bâtit, mais les preuves sont faites sur des essais cliniques aussi quelque part, et vous voyez effectivement la perversion du système, d'après moi. Et puis les universitaires, ils sont trop préoccupés de de devoir faire des publications dans des journaux référencés. Ils ne peuvent pas faire des publications sur des choses qui ne peuvent pas être référencées, puisque quelque part on ne peut pas apporter de preuves à ce qu'on dit, et chaque fois effectivement on est en difficulté. Et est-ce qu'au fond de tout cela on va oublier l'histoire individuelle? Ça, c'est la question que je vous pose. Et à l'heure actuelle, c'est vrai que la sexologie, elle a donné à tous et à toutes les spécialités médicales les maillons manquants qui leur a permis de pouvoir, à l'intérieur de chaque discipline, tisser quelque chose qui est de l'ordre de la compréhension et de permettre à chacun de parler un petit peu mieux avec ses patients et de comprendre beaucoup plus de choses en gynécologie, en urologie, en cardiologie. Mais que la sexologie, elle est sans statut, elle est sortie du nouvel âge, hein, de la nouvelle vague. Au temps où le sida n'existait pas, où on se déculpabilisait à parler de plaisir, où la pédagogie sexuelle était une fin en soi, et alors qu'aujourd'hui, on est dans un moment, au contraire, où il y a une surinformation, et on se pose la question de est-ce qu'on est à un moment où on est à un moment de l'efficacité contre ce qui est de l'ordre du mystère et du continent noir? Alors que les psys peuvent se poser la question de tout ce qui a à voir avec la sexualité, les pédophiles qui peuvent consulter pour insuffisance sexuelle, les paraphiles qui peuvent venir vous poser des questions difficiles, la sexualité en prison qui est également un sujet tabou et qu'on ne peut pas laisser comme ça en permanence dans le noir, les victimes d'auteurs d'agressions sexuelles qui ont besoin d'être écoutées et où on n'a pas besoin de les caser toujours dans une case qui serait le PTSD, et les troubles de l'identité sexuelle qui deviennent légion.
Voilà, on va peut-être parler déjà des femmes agresseurs sexuels incestueuses et pédophiles, avant de venir
à la force. C'est quelque chose qui est assez récent dans les études et dans les chiffres. Les femmes criminelles n'ont jamais beaucoup intéressé les scientifiques. C'est depuis la moitié du XXe siècle qu'on a commencé. Ce sont essentiellement les femmes noires américaines qui ont commencé à mettre en évidence le rôle des femmes dans la société, d'abord en tant que victimes, mais aussi en tant que femmes égales de l'homme. Et c'est à partir de là qu'on s'est aperçu que les femmes faisaient des actes criminels exactement comme les hommes. Et actuellement, à la maison d'arrêt de Rennes, qui est une maison d'arrêt exclusivement pour femmes, il y aurait 25% de femmes agresseurs sexuels. Ça veut dire qu'une femme sur quatre actuellement incarcérée le serait soit pour des agressions pédophiliques, incestes, ou alors des agressions, des viols et des agressions sexuelles sur d'autres femmes ou des hommes adultes.
Ou des hommes adultes.
Tout à fait.
Merci de votre attention.
Merci Mireille d'avoir évoqué avec à la fois tant de talent, de vérité et puis d'agrément aussi, hein, mais on sait que tu es experte dans le domaine, hein, quelque chose qui est un peu délicat, tu as su nous faire sourire et puis quelque chose qui a été pour nous une époque qui reste très émouvante finalement, hein, et que tu as su jalonner avec des temps très très importants et presque de façon un peu humoristique, hein, glisser de l'inquiétude que ça peut créer à quelque chose qui peut être une prise de recul, enfin une prise de distance, de quoi réfléchir. Moi, bien sûr, je suis très sensible à cette persistance chez toi, de cette retenue sur qu'est-ce qui est expérimenté, enfin, quelle est la vie de cette personne, comment ça fonctionne, comment ça se passe. Donc, tout un tas de questions qui font... que tu as, peut-être sans trop le savoir, tu as quand même récupéré une attitude phénoménologique clinique dans cette approche globale de l'humain. Enfin, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que ça veut dire, quoi, voilà. Et je crois que ton tapotement final du pied est une invite à vous tous, hein, toutes et tous, à tenter peut-être à votre manière de poursuivre cette approche, ce mode d'approche, et puis ces interrogations, hein, qui font que quand même dans le... Vous l'avez vu, hein, dans le feu d'artifice final, on se retrouve avec des choses qui sont importantes. Moi, j'avais été impressionné à Nice lors d'une réunion avec des juristes, des policiers. On avait même le juge Renard avec nous. Et puis, un commissaire assez tonique qui nous faisait le pourcentage d'inceste, alors mère-fille, frère-sœur, enfin, des choses que nous, on n'imaginait même pas à la limite. On était d'une naïveté assez extraordinaire. Bon, tu nous rappelles que là, de nouvelles questions vont se poser, que tous, vous devez être sans doute en attente, hein, d'une réflexion et de guide.